Radio Kapi. À la présentation du journal, Lievin Mbwinga.
Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les communautés et notabilités du Grand Kivu inquiètent. Pas d'amélioration et beaucoup de lenteur dans les démarches diplomatiques, constate-t-elle. Nous en parlons dans ce journal. 3 décembre aujourd'hui, le monde célèbre la journée de personnes vivant avec handicap. Vous allez entendre un journaliste non-voyant, Gomli Makola, en profite d'ailleurs pour appeler les personnes en situation de handicap de se prendre en charge. Madame Julienne Lusenge, directrice du Fonds pour les femmes congolaises, Sauf et Padi, est prix des droits de l'homme des Nations Unies 2023 et notre invitée, elle nous dira pourquoi elle a tenu à présenter son prix à ses collègues activistes des droits humains. L'actualité est d'abord sécuritaire, avec cette inquiétude des communautés et notabilités du Grand Kivu. Pas d'amélioration et beaucoup de lenteur dans les démarches diplomatiques, indique-t-elle. Ces autorités traditionnelles ont exprimé leur position sur plusieurs questions d'actualité, notamment le démantèlement des FDLR et le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, entre autres, dans une déclaration rendue publique ce lundi à l'issue d'une rencontre à Goma. Éclairage avec Sifa Maguro.
Après avoir passé en revue l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les chefs coutumiers du Grand Kivu suggèrent que le processus de paix de Luanda soit fusionné et coordonné avec le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour une plus grande efficacité. Joseph Nkinzo, président de cette structure, a lu cette déclaration.
Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. Une coordination renforcée pour éviter les engagements multiples.
Ces derniers ont exigé l'inclusion des autorités traditionnelles dans le processus de paix.
La prise en compte de nos expertises locales pour éclairer les problématiques spécifiques telles que celles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et celles de l'implantation irrégulière de nouvelles populations décriées par les déplacés des zones sous contrôle RDF M23 AFC.
Ces représentants des communautés locales du Grand Kivu ont également exigé le retrait total de l'armée rwandaise sur les sols congolais et leurs sanctions au niveau régional et international. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Puisque nous parlons diplomatie, sachez qu'à l'initiative du président angolais Joao Lourenço, Luanda va abriter le 15 décembre prochain le sommet tripartite Angola-RDC-Rwanda au niveau des chefs d'État. Ceci entre dans le cadre des efforts en cours pour trouver une solution durable au conflit armé qui déchire l'est de la RDC. Pour rappel, la semaine dernière, la RDC et le Rwanda avaient approuvé un document appelé Concept d'opération CONOP, en sigle un instrument qui guidera la mise en œuvre du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR. Ce document approuvé lors de la 6e réunion ministérielle sur le processus de paix dans l'est de la RDC est aussi appelé à faciliter le désengagement des forces de défense du Rwanda. Toujours dans la recherche des solutions, Kinshasa multiplie de fronts judiciaires contre Kigali, vous le savez, et elle vient encore une fois de rebondir après la Cour pénale internationale, CPI, la Cour de justice de l'EAC, la RDC, vient d'obtenir un procès contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP, basée à Arusha en Tanzanie. C'est le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qui confirme cette information. Il le dit dans une déclaration lue hier lundi devant la presse à Kinshasa. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Devant les médias, le vice-ministre de la Justice affirme tirer les fondements de sa déclaration d'une correspondance officielle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour Samuel Mbemba, ce énième procès qui débute le 12 février 2025 à Arusha en Tanzanie constitue une étape décisive pour le gouvernement congolais.
Depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minerais, le viol de nos enfants et nos femmes. Jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Nous ne sommes que des exécutants et nous avons trouvé ce que le président de la République avait conçu lui-même.
Cette avancée intervient 4 mois seulement après le passage du vice-premier ministre de la Justice à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où il avait plaidé la cause de la RDC, victime de l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. À travers ces offensives judiciaires, le gouvernement congolais réaffirme ainsi son engagement à utiliser tous les mécanismes juridiques internationaux pour dénoncer les exactions commises sur le territoire congolais et exiger justice pour les victimes des violations des droits de l'homme.
La campagne de levée de fonds pour les crises exogènes et endogènes subies par la RDC depuis son accession à l'indépendance effective et elle s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, a lancé cette activité organisée par le Fonds national de promotion et de services sociaux FNPSS. Selon Francisco Lungunda, directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales, il ressort que ces crises ont plongé certaines couches de la population dans une précarité très prononcée qui nécessite l'intervention du gouvernement, des partenaires et des personnes de bonne volonté. Cette campagne vise justement à valoriser le capital humain en brisant le cycle de l'extrême pauvreté ainsi que les inégalités sociales, comme l'explique ici Maître Alice Mirimo Kabeti, administrateur directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux. Elle est au micro de Grâce Mvuezolo Lemvo.
Le FNPSS est un instrument financier qui a dans son objet social d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale. Et qu'à ce titre, il est appelé à appuyer les actions de relèvement social et économique des groupes vulnérables et appuyer, garantir leur accès aux services sociaux de base. Parce qu'il n'y a que l'accès aux services sociaux de base qui peut garantir le relèvement, et cela de façon efficace. Parce que vous savez que pendant longtemps, notre pays a beaucoup vécu sous la forme d'assistance sociale, et cela continue parce que vous voyez que notre ministre, elle sillonne encore dans beaucoup d'endroits où les populations sont encore frappées de beaucoup de crises, soit des crises issues des catastrophes naturelles ou des crises issues des conflits, pour aller apporter de l'aide et appuyer tant soit peu les populations sinistrées et vulnérables. Le gouvernement a décidé d'apporter des solutions durables.
Le ministère des Affaires étrangères, loin d'être un simple rouage administratif, est le visage de la RDC sur l'échelle mondiale et le pilier sur lequel repose la voix du Congo. Pour ce faire, il doit être modernisé en vue de l'adapter aux réalités de l'heure. C'est l'essentiel du message que Thérèse Kayikwamba-Wagner a délivré au personnel de son ministère. C'était hier lundi au cours d'une rencontre dans la grande salle des conférences internationales du dit ministère à Kinshasa. Ce type de rencontre d'échange, elle les veut régulières pour lui permettre d'avoir des informations de première main venant du terrain. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grâce Mvuezolo.
C'est avec une profonde gratitude et un sens aigu de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui, pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères de notre pays. Depuis ma prise de fonction, il y a pratiquement 6 mois, j'ai pris le soin d'évaluer avec attention les défis majeurs qui se dressent devant nous, tout en écoutant vos préoccupations et en identifiant les priorités essentielles pour redonner à ce ministère tout l'éclat qu'il mérite. Le ministère des Affaires étrangères est bien plus qu'un simple rouage administratif. Il est le cœur battant de notre diplomatie, le visage de la République démocratique du Congo à l'échelle mondiale et le pilier sur lequel repose notre voix sur les grandes questions internationales. À ce titre, il est impératif de le moderniser, de le dynamiser et de l'adapter aux exigences et aux réalités de notre époque. C'est donc avec une joie sincère que je me retrouve parmi vous en ce jour, rendu possible malgré nos agendas surchargés. Ce moment de rencontre n'est pas simplement une formalité. Il est une occasion privilégiée pour renforcer nos liens au sein de cette grande famille diplomatique et surtout pour partager avec vous ma vision pour l'avenir de notre institution.
Tout autre chapitre à présent, les Congolais invités à suivre l'exemple de la révérende sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta en restant intègre et fidèle à la parole donnée. Appel de l'archevêque métropolitain de Kisangani, lancé hier lundi à Isiro lors de la célébration du 60e anniversaire de son martyr. Cette célébration, dans le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, a connu la participation du président Félix Tshisekedi et de nombreuses personnalités politiques, religieuses ainsi que des fidèles catholiques. Les propos de Mgr Marcel Outembi dans cet extrait choisi par Jacques Mokonkole.
Les contextes sociopolitiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la part est de notre pays, la République démocratique du Congo. Les guerres, les groupes armés qui sèment la désertion, la mort et le déplacement des populations innocentes. Aujourd'hui, plus que jamais, dans l'effort de une société plus juste et plus fraternelle, le peuple congolais a besoin de chrétiens, de modèles, des témoins de Jésus-Christ qui ont vécu comme nous la souffrance, qui, sa foi au Christ, ont été témoins de son amour et de sa fidélité. La bienheureuse Anouarité est un grand modèle pour nous. Sa vie était un message fort à la nation congolaise, notre pays, au peuple de l'Afrique et à l'humanité tout entière. Modèle d'intégrité, de force morale, modèle de respect de la parole donnée, modèle du courage prophétique.
Mais qui est exactement la révérende sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta? Nous allons découvrir cette religieuse catholique portée à l'honneur hier lundi à Isiro. Blaise Ndongala Mayanda nous dresse sa note biographique.
Née d'une famille animiste du Congo belge dans les territoires de Wamba, province du Haut-Ouélé, Anouarité Clémentine Nengapeta reçoit le baptême en 1941, affirme des sources religieuses. Selon les mêmes sources, la jeune Clémentine, à l'âge de 16 ans déjà, souhaite devenir religieuse et trop jeune, elle sera refusée par les sœurs de la congrégation Sainte Famille. Mais un jour, au passage d'un camion à la mission pour amener les postulantes au couvent de Bafouabaka, ajoute les mêmes sources, Anouarité profite de l'occasion et s'hisse clandestinement dans ses véhicules. En 1964, alors qu'éclate la rébellion de Simba, la sœur Marie-Clémentine Anouarité a été aussi capturée que les autres religieuses de sa congrégation. C'est alors qu'un des chefs de Simba, avec l'aide de son lieutenant, essaye sans succès de convaincre Anouarité de devenir sa femme. Furieux devant ses refus répétés, ce chef rebelle l'a tué d'un coup de lance alors qu'il était âgé de 24 ans. C'est en 1985, soit 21 ans après son assassinat, que Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta a été béatifiée par le pape Jean-Paul II.
L'actualité, c'est aussi la poursuite de l'instruction dans l'affaire des forages devant la Cour de cassation. Hier lundi, trois renseignants ont été entendus, notamment le ministre de Développement Rural, Muindo Zangi, et l'inspecteur des Finances, Kasonga Olenga. Ils ont tous témoigné à charge de l'opérateur économique Mike Kasenga. Celui-ci est accusé, avec l'ex-ministre de Développement Rural, François Robota, de détournement présumé de plusieurs millions de dollars américains. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en soins à l'étranger, et l'ancien ministre de Développement Rural, Guy Mikulu, pourront comparaître à la prochaine audience. On écoute Zangi Muindo en train de charger Mike Kasenga. Il est au micro de Jeff Ngoy.
J'ai bien démontré que le contrat a été signé à des circonstances particulières par le ministre Guy Mikulu, qui était déjà démissionnaire. Et j'ai bien voulu démontrer que c'est dès le début du contrat que les sites devaient être indiqués. Il ne revient pas au cours de l'exécution des contrats qu'on puisse maintenant venir chercher les sites d'exécution. Je viens démontrer que le contrat prévoyait que la première phase soit préfinancée totalement par Mike Kasenga avant d'être payé sur facture, mais qu'il a été pratiquement payé presque en entièreté avant même d'exécuter le contrat. Il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala où, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été donc fait.
Le monde célèbre aujourd'hui 3 décembre la journée mondiale de personnes vivant avec handicap en RDC. Cette journée est célébrée à l'esplanade du Palais du Peuple sous le thème à amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable. À cette occasion, Gomli Makola, journaliste non-voyant, appelle les personnes en situation de handicap de se prendre en charge et à la population congolaise au changement de leur perception vis-à-vis des personnes vivant avec handicap. Il est joint au téléphone par John Chibwabwa.
La perception de la personne handicapée jusqu'à aujourd'hui est toujours vue autrement. Je vais commencer avec les personnes en situation de handicap, d'être brave, de ne pas croiser les bras, de se lever et puis d'étudier, de se former, de ne pas croire comme si tout viendra du ciel, non. De beaucoup bosser, d'avoir du courage et puis d'aller un peu plus loin. Parce que nous ne sommes pas là pour juste étendre la main, nous devons être celles qui pouvons donner quelque chose aux autres. Et voilà, la société a besoin de notre contribution à nous tous. Et par rapport à la population congolaise, d'échanger les regards, d'éviter les préjugés et d'éviter la discrimination. Toute personne créée à l'image d'aider est une personne utile. Il faut leur donner juste la chance et vous pouvez voir ce qu'elle peut faire. Ne voyez pas par apparence, sinon vous risquez d'écarter une personne qui pourrait vous être utile dans une entreprise ou dans toute société. Merci.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, le président français a entamé hier lundi une visite d'État de 3 jours en Arabie Saoudite pour intensifier les liens avec ce puissant acteur du Moyen-Orient. Emmanuel Macron et le prince Mohamed Ben Salman ont conclu un partenariat stratégique visant à intensifier les liens bilatéraux et se sont engagés à œuvrer pour une désescalade dans la région du Liban à Gaza.
L'invité.
Promouvoir le droit et la justice pour tous, c'est l'engagement de Madame Julienne Lusenge, directrice du Fonds pour les femmes congolaises, Sophé Padi, un engagement qui lui a valu l'année dernière le prix des droits de l'homme des Nations Unies, un prix décerné tous les 5 ans par l'ONU aux personnes qui se distinguent dans la défense et la promotion des droits humains. Madame Julienne Lusenge a présenté ce prix samedi à Goma. Elle est notre invitée et revient sur l'importance de présenter ce prix à la base. Madame Julienne Lusenge s'entretient ici avec Rosalie Zawadi.
Madame Julienne Lusenge, qui représente pour vous la présentation de ces prix ? Honneur qui vous.
C'est très important pour moi de présenter ce prix à mes collègues activistes qui luttent au quotidien, qui me soutiennent. Parce que ce n'est pas le prix de Julienne, c'est le prix des femmes congolaises qui luttent chaque jour pour défendre, pour promouvoir les droits humains et surtout les droits des femmes et des filles. Et donc je me suis dit, je dois venir avec ce prix. Ce prix, c'est un grand prix donné par les Nations Unies. C'est un prix mondial. Et c'est pour la première fois qu'une femme africaine puisse recevoir ce prix. Aux côtés de Desmond Tutu, de Mukwege et des autres. Leïla Ma a reçu aussi ce prix. Donc pour moi, c'est un grand honneur et je me suis dit, je reviens à la source, là où j'ai commencé la lutte. Je suis allée à Bunia, je suis allée à Beni où j'ai commencé la lutte, où vraiment Sophé Padi a pris l'allure pour aller de l'avant. Mais aussi Beni qui est mon origine, mon village est en Baou, je suis passée en Baou. Parler aux élèves, je suis passée à Ouicha, là où j'ai fait l'école primaire, j'ai commencé le secondaire. Pour parler aux jeunes, les encourager, les inspirer, pour dire même à partir d'ici, tu peux aller très loin et faire du bien.
Et ça fait combien d'années que vous luttez, vous défendez les droits des femmes?
C'est plus de 40 que je suis là-dedans, parce que j'ai été formée par mon père. Et j'ai commencé ça en famille en fait. Chaque fois, j'ai discuté avec mon père et il me permettait de discuter avec lui. Et si j'argumente pour le convaincre, il acceptait. Et lui, s'il argumente, il me convainc, j'accepte. Donc pour moi, il faut donner la parole. Et moi, je me suis dit, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a aidé à m'exprimer, à exprimer mes opinions, à argumenter. Maintenant que j'ai l'espace, j'ai la voix, pourquoi je ne peux pas le faire? Donc, de la famille, j'ai fait ça à l'école, j'ai fait ça partout où je travaille, j'ai fait la promotion des droits et de la justice. En tout cas, c'est mon engagement.
Alors, une femme congolaise de l'Est qui reçoit cette reconnaissance des Nations Unies comme défenseur des droits de l'homme, en voyant les conditions des femmes de l'Est aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait?
Oui, ça me fait très mal. Et c'est comme ça que je vais partout. J'ai rencontré le pape en 2016, j'ai rencontré le secrétaire général. Déjà, je suis allée aux Nations Unies en 2009. présenter au Conseil de sécurité la situation des femmes congolaises. À la Commission européenne, aux États-Unis, j'ai rencontré les sénateurs, j'ai rencontré aussi d'autres membres du Congrès, au département d'État. Donc j'ai fait tout pour aller là où je peux aller, faire le plaidoyer. Mais entre-temps aussi, j'ai fait tout pour mobiliser les ressources, pour revenir prendre en charge les personnes qui en ont besoin. Donc, je ne peux pas fermer les yeux et rester assise. Ça me fait très mal. J'ai déjà amené plusieurs délégations ici. Beni, Bounia, j'ai amené les femmes Nobel. J'ai amené Madame Diop, l'envoyée spéciale de l'Union africaine. J'ai amené la rapporteure spéciale, Yakine Ertuk, qui était en charge des violences sexuelles dans les conflits. On a écouté les témoignages des femmes. Il y a le représentant de l'Union africaine qui était à Kinshasa. Quand on était venu avec lui à Beni, il a écouté les victimes. Il s'en souvient jusqu'aujourd'hui et il en parle partout. Que ça a changé sa vie. Ce jour-là, il a pleuré devant les victimes. Donc, on fait de notre mieux pour que les gens connaissent la vérité. On fait les plaidoyers partout. Là, on est vraiment en train de suivre le processus de Luanda. Et je n'y vais pas seule. Je vais avec les femmes. Parfois, j'amène les victimes elles-mêmes pour parler elles-mêmes. J'amène les activistes. Partout où on peut, quand on a les moyens. Même quand on n'a pas les moyens, on y va. On est venu ici faire la consultation des femmes pour avoir le message à amener à Luanda, mais aussi le message que nous allons mettre dans notre pétition pour collecter les signatures, pour dire « ça suffit ». Nous voulons la paix et la paix immédiate. Il faut que les dirigeants de la région des Grands Lacs comprennent que les souffrances ont trop duré. Il faut qu'on arrête.
Voilà, c'est la fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pélé Kipela Mondo, à Jude Bilanda et à Mimi Kindou.